Chapitre 7. À partir du lundi 9 mars 1987, jour où Pie se mit à exécrer Adrien, ce dernier compta les jours comme un prisonnier compte ceux qui le séparent de la liberté. En notant les samedis après-midi, les dimanches, les mercredis et les jours fériés, pour atteindre les grandes vacances, il fallait tenir 61 jours et demi. 61 jours et demi à entrer dans la classe avec du plomb dans le ventre et les chaussures. 61 jours et demi à barrer la journée écoulée, chaque soir, avec un feutre noir en appuyant très fort sur la pointe pour se soulager. Il rayait les jours dans un calendrier des pompiers sur lequel on pouvait voir les hommes du feu intervenir dans des accidents de la route, des inondations ou des incendies. Exactement l'état d'esprit dans lequel se trouvait Adrien, tourmenté par son instituteur. Il était retenu à chaque récréation et le soir après la classe. Pie prétextait une leçon non apprise, un texte mal rédigé qu'il fallait recopier en faisant de grandes boucles. Il lui faisait retracer un parallépipède rectangle, réviser les préfixes, suffixes, ordre de grandeur, écrire 100 fois « Je ne rêve pas » en classe. Depuis le 9 mars 1987, Adrien ne rêvait plus. Il n'observait plus la nuque de Nina, ses cheveux, ses élastiques, ses robes, ses épaules, son dos. Pie était toujours penché sur son épaule à le renifler. Dès qu'Adrien baissait la garde, Pie l'envoyait au tableau pour mieux l'humilier devant toute la classe, en vain. Les timides ne sont ni faibles ni lâches. Les bourreaux n'ont pas nécessairement le dessus sur eux. Jamais Adrien ne pleura. Il fixait Pie droit dans les yeux et s'évertuait à répondre à ses questions, aussi pernicieuses et incompréhensibles fussent-elles, tandis que l'élève Martin Delannoy, le premier souffre-douleur de l'année, respirait mieux, n'en revenant toujours pas de ce miracle. Le déchaînement était passé dans un autre camp. Le soir, après sa retenue, Nina et Étienne attendaient Adrien comme deux âmes en peine, assis sur un trottoir. Il leur accompagnait chez lui. Adrien avait mal partout, les muscles endoloris par décontracture. Nina lui demandait continuellement « Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prend à toi ?» À quoi Adrien répondait toujours « Un jour je te dirai. » « Mais tu me diras quoi ?» Et Adrien se claquemurait dans son mutisme. Étienne lui demandait s'il voulait qu'il aille crever les pneus du père Pie ou lui mettre de la merde de chien dans sa boîte aux lettres. Je sais où il habite. Mais Adrien refusait. Pie se douterait de quelque chose et ce serait pire s'il s'en prenait à eux. Adrien pleurait dans son sommeil. Quand il se réveillait, sa tête d'oreiller était mouillée. Ils ne lisaient plus le même livre ensemble dans la chambre de Nina et la télé restait éteinte. Comme si les héros de leur feuilleton préféré étaient morts. Il nous fout nos mercredis en l'air. Il nous fout notre vie en l'air. Avant, c'était bien. Un jour, je l'ai vu en ville. Il est mal foutu. C'est pour ça qu'il met une blouse. C'est pour cacher son gros cul. Ils répétaient tous trois en boucle. Vivement l'été. Les sorties au cinéma étaient devenues rares. Ils promenaient une chape de plomb commune à l'interclasse. Mais quand ils s'y rendaient, ils s'installaient comme de coutume. Nina au milieu, Étienne sur sa gauche. Adrien sur sa droite. C'est ainsi qu'ils découvrirent ensemble le grand chemin de Jean-Loup Hubert. Ce jour-là, Adrien comprit que l'on pouvait s'extirper d'un quotidien aussi lourd soit-il en pénétrant dans une œuvre. Le 4 mai 1987, Pie s'aperçut qu'il lui manquait des copies à corriger dans son cartable. Sans réfléchir, il bondit sur Adrien, lui mit une raclée devant les autres enfants terrorisés, en l'accusant d'avoir dérobé les dites copies pendant sa retenue. Nina et Étienne se levèrent de concert pour intervenir, mais un regard, un seul regard d'Adrien, suffit pour qu'il se rassoie immédiatement. Le corps d'Adrien ne résista pas à cette nouvelle offensive. Il tomba malade. Jamais personne ne l'avait battu. Son père ne l'avait jamais touché, même si sa quasi-indifférence l'avait marqué dans sa chair de manière invisible mais indélébile. Sa mère était douce. Jamais elle n'aurait levé la main sur son fils. Sur le chemin du retour, Adrien fit jurer à Étienne et Nina qu'il ne raconterait rien. Ses deux amis levèrent la main et jurèrent. Quand son fils arriva à la maison, Joséphine le trouva très pâle, préoccupé, comme absent. Elle tenta de le faire parler, en vain. Après le dîner, elle téléphona à Nina pour lui demander s'il s'était passé quelque chose de particulier à l'école, mais Nina répondit que non, rien de spécial, c'était comme d'habitude. Dans la nuit, Adrien fut pris de tremblements, puis de fièvre. On diagnostiqua une bronchite qui se transforma en vilaine pneumonie. Il fut hospitalisé quelques jours. Il resta absent de l'école 3 semaines. Nina et Étienne prirent ses cours et ses polycopiers et allèrent chez lui chaque soir après la classe. Joséphine, qui fumait désormais sur son petit balcon, réchauffait leur goûter qu'ils prenaient autour de la table en formica. La chevelure de Joséphine gardait le souvenir d'une certaine blondeur, jaunie et blanche par endroits. Une petite tête qui aurait pu rappeler celle d'un rongeur. Cependant, ses traits étaient fins, lisses. Son regard contenait douceur et incrédulité. Elle n'avait pas refait sa vie après avoir été la maîtresse du père d'Adrien. Un homme qui soufflait le chaud et le froid, détaché et marié à une autre qu'il ne quitterait pas. Il avait prévenu, jamais. Quand il avait appris que Joséphine était enceinte, il n'avait pas réagi. Ni colère, ni amertume, ni joie. Le jour où il était parti sans dire qu'il ne reviendrait pas, Joséphine faisait une tarte aux pommes. Elle avait les mains dans le beurre et la farine, quand il lui avait tendu quelque chose. Elle n'avait pas compris avant de lire un montant sur un chèque. Elle avait fait une tache de gras sur la signature. Sylvain Bobin n'était revenu que pour reconnaître l'enfant. Joséphine n'avait pas trouvé la force de lui dire que ce n'était pas nécessaire. Elle ne l'aimait plus. Pourtant, elle l'avait désiré, attendu, souhaité. Mais c'était avant la déception, les mots sales et les gestes lâches. Elle l'avait laissé s'approcher du berceau. Il était resté à distance. Parfois, il réapparaissait, comme un contrôleur de travaux publics ou un flic, tout juste s'il sonnait avant d'entrer. Il jetait un coup d'œil à l'appartement, aux peintures, à la plomberie, aux résultats scolaires d'Adrien, abandonnait un énième chèque sur la table du salon et repartait, sans doute en paix avec sa conscience. Quand Adrien fut hospitalisé, Joséphine lui téléphona. C'était la première fois en 11 ans. Sylvain Bobin était à l'étranger. Elle laissa un message à son hôtel. Il la rappela. De la friture sur la ligne. Au téléphone, Joséphine le rassura. Plus de peur que de mal. Adrien allait déjà beaucoup mieux. Une méchante bronchite qui avait mal tourné. À présent, Joséphine observait les trois tremper leurs petites bouches dans le bol fumant. Elle aimait les nouveaux amis d'Adrien, surtout Nina. Joséphine aurait voulu avoir une fille qui lui ressemble. Petite poupée aux yeux bruns. Deux étoiles plantées dans un adorable minois. Et qui n'ont pas fini de briller, pensait-elle. Après les devoirs, Nina repartait en serrant Adrien dans ses bras et Étienne en lui faisant une accolade. Et toujours ces mots, comme une litanie. Vivement l'été. Après sa maladie, en reprenant le chemin de l'école, Adrien continua à barrer les jours qui le séparaient de la délivrance. Il avait calculé qu'en notant le pont du jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, les mercredis, les samedis après-midi et les dimanches, il ne restait plus que 31 jours et demi. Adrien avait lu quelque part qu'avoir le diable au corps signifiait réaliser quelque chose de surhumain. Il lui sembla surhumain de se lever, boire un lait chaud, s'habiller, emprunter ce chemin, entrer dans l'enceinte de l'école Pasteur, traverser le préau, monter 6 marches, poser sa veste sur le porte-manteau, reprendre sa place, sentir l'eau de Cologne du mal engoncé dans sa blouse grise, croiser ses yeux derrière ses lunettes pendant 31 jours et demi. Il lui sembla surhumain de ne pas avoir de père pour le défendre, lui tenir la main, lui dire « Je te protège, mon fils, sois tranquille ». Le jour où il remit les pieds en classe, même la présence de Nina et Étienne ne calma pas son cœur fou. Une envie de chier, l'estomac recroquevillé, la gorge enflée. Ce matin-là, Adrien se mit en tête que l'asthme de Nina l'avait contaminé, tant respirer lui semblait difficile. Tout de suite un sourire, du miel dans la voix de l'instituteur. Pas de tableau pendant des heures, pas de retenue, ni pendant la récréation, ni le soir. Pi avait eu peur. C'était la première fois qu'un souffre-douleur tombait malade. D'habitude, il sentait ces choses et calmait le jeu avant qu'elles tournent au vinaigre. Les semaines passèrent. Adrien eut de bonnes notes à ses devoirs et les encouragements de son instituteur à l'encre rouge. Dans la marge, en haut, à droite, « Très bien, très bon travail, élève sérieux. » Un soir de juin, Adrien resta de sa propre initiative dans la salle de classe, tandis que Pi travaillait à son bureau. Les élèves devaient fabriquer de l'électricité avec un ventilateur 12 volts, coller un aimant sur chaque pale de l'appareil et le raccorder à un transformateur à l'aide de deux dominos. Adrien se passionna pour l'exercice, fabriqua une tablette en bois qu'il prit soin de peindre en blanc et y connecta trois ampoules de couleur. Comme il n'avait toujours pas fini à 18h, Pi, pressé de partir, lui demanda de terminer cette tâche chez lui. Adrien y travailla tout le week-end, en apportant des variations à l'intensité électrique à l'aide d'un interrupteur, ce qui épata Nina. « T'es super intelligent !»« C'est pas de l'intelligence, c'est de la physique. » « C'est pareil. » Quand Adrien, Nina et Étienne arrivèrent devant leur salle de classe le lundi matin, le directeur, M. Avril, attendait tous les élèves sur le pas de la porte, l'air grave. Avril les fit entrer en rang et leur demanda de prendre leur place habituelle, de sortir leur lexique grammatical pour lire la dernière leçon en silence. Pi était absent. Il ne l'avait jamais été de toute sa carrière d'instituteur. Les élèves s'interrogeaient du regard sans pipe et mot, quand l'un d'entre eux finit par oser lever la main. « Où est Monsieur Pi ?»« Dans mon bureau, » répondit le directeur. Une vague de déception se fit entendre. On avait espéré rentrer chez soi, faire du vélo, des jeux de société, regarder la télé, même s'il n'y avait pas de programme jeunesse le lundi. Non, Pi n'avait pas été enlevé. Il n'était ni malade, ni mort. Il y aurait école aujourd'hui. C'est alors qu'Avril chercha Adrien du regard avant de lancer. « Adrien Bobin, tu veux bien me suivre, je te prie ?» À l'énoncé de son nom, il eut la sensation que son estomac se retournait. Il se leva comme un innocent que l'on condamne et qui ignore de quoi on l'accuse, jeta des regards inquiets à Nina et Étienne et suivit Avril, la tête baissée. Regardez les carreaux sur le sol, mal alignés. Essayez de les compter pour ne plus penser à rien. 1, 2, 3, 4. Un mauvais pressentiment. Pourquoi Pi était-il absent? Pourquoi le directeur le convoquait-il lui, lui et lui seul? Oui, un mauvais pressentiment. Quand Avril et Adrien entrèrent dans le bureau de la direction, une ancienne salle d'études qu'on avait récupérée pour y installer un secrétariat, des armoires contenant des dossiers scolaires, un téléphone et une machine à écrire, Pi était là, assis, les jambes croisées. Il ne portait pas sa blouse grise. Il était en bras de chemise bleu ciel et pantalon de tergal. C'était la première fois qu'Adrien voyait son instituteur en habit de ville. Pi ne leva pas les yeux, ne les posa pas sur Adrien, même quand ce dernier le salua. Il se contenta de sourire au directeur en faisant comme si Adrien n'existait pas. « Bien, on ne va pas y aller par quatre chemins, Monsieur Pi m'informe que tu as volé des fournitures. » Adrien ne comprit pas tout de suite. Il chercha le regard de Pi, qui était toujours fixé sur le directeur, assis face à lui. « Tu sais que le matériel utilisé en travaux pratiques doit rester dans l'enceinte de l'établissement. C'est écrit dans le règlement intérieur de l'école. » Adrien fut incapable de prononcer un mot. On l'accusait de vol. Pi l'avait coincé. Il avait gagné la partie. Adrien sentit ses larmes monter. Mais non. Pi n'aurait pas ses larmes. Il les ravala aussitôt comme une soupe amère. Enfonça ses ongles dans la peau de ses avant-bras. Un détail l'aida. D'abord imperceptible, puis ce ne fut plus un détail mais une évidence. Au fur et à mesure qu'Adrien respirait, que son cœur se calmait, il la sentit. D'abord légèrement âcre, puis de plus en plus tenace, formant des cercles de plus en plus larges, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus passer inaperçue dans la pièce. Une odeur de transpiration. Pi puait. Il émanait de lui l'odeur du mensonge. Avril le sortit de ses pensées. « C'est tout ce que tu as à dire pour ta défense, Bobin ?» Son silence l'accusait. Qui ne dit mot consent. Il consentit à être puni jusqu'à la fin de l'année scolaire, des lignes à recopier chaque jour et à remettre au directeur. Il fut accusé de vol devant toute la classe et mis à l'écart, à une table au fond, contre le radiateur froid. Aucun avertissement ni rapport ne fut porté sur son dossier scolaire, car Adrien Bobin était un bon élève et il avait rapporté sa tablette le matin même. Et puis, il ne s'agissait que de 3 ampoules, de fils électriques et de matériel sans aucune valeur marchande. La punition, c'était pour le principe. Il fallait marquer le coup. Quand Joséphine Simonier apprit ce qui s'était passé, elle voulut rencontrer Avril Épi sur le champ et remonter jusqu'au recteur pour fausses accusations. Adrien refusa. « Pi a raison, j'ai volé le matos. »« Tu me prends pour une idiote? Pourquoi tu le défends ?»« Plus que 19 jours avant les vacances. » »« Je vais appeler ton père. » »« J'ai pas de père. Il n'en a rien à foutre de moi. » »« Si tu l'appelles, je fugue. Je te jure, je fugue. Et tu me reverras jamais. » Joséphine céda. Elle n'appela personne. Ni Sylvain Bobin, ni le recteur. Joséphine crut son fils sur parole. Adrien était capable de disparaître. Elle l'avait toujours su, senti. C'était comme une menace insidieuse. Son fils trimbalait quelque chose de grave. Absolument pas de l'ordre de l'enfance. Adrien n'était jamais insouciant. Il était doux, mais sérieux. Inutile de lui demander de faire ses devoirs, de se laver les dents, de mettre la table, d'aider à ranger l'appartement. Il le faisait de lui-même. Il riait souvent. Un rire cristallin que Joséphine chérissait. Il savait s'abandonner à la joie, surtout lorsque Nina et Étienne étaient là, en regardant une comédie ou une émission à la télévision. Mais il retombait toujours sur ses pieds, ceux d'un adulte qui chose du 35. À partir de ce jour, Adrien se méfia toujours des autres, de leur perversité. Il ne fit plus jamais confiance à personne. Cette année scolaire lui avait donné 2 amis et repris son innocence.